cinéma, théâtre, histoire, sport, toute la culture en débat.
Mais si on en parlait. Un magazine culturel présenté par Hamid Souadinel, Malika Lafer et réalisé par Zoubir Kitani.
Amis auditeurs, bonjour. Hamid, bonjour. Souadinal, bonjour.
Bonjour, Malika.
Et c'est avec plaisir que nous recevons ce matin Sadek Aïsset, qui est journaliste de formation. Sadek Aïsset, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes auteur de deux romans, et le premier, L'année des chiens. Le second, La cité du précipice, est co-auteur d'un autre ouvrage, Algérie, une guerre à la société. Vous vivez en France depuis 1992. Vous travaillez dans 91, pardon. Vous travaillez dans une commune qui se situe dans le sud de Paris. Votre fonction est écrivain public. Vous nous direz ce que c'est qu'être écrivain public. Et vous animez également des ateliers d'écriture. Vous vivez donc, comme nous venons de le dire il y a quelques secondes, en France. Alors, L'année des chiens et La cité du précipice, deux romans qui sont sortis donc entre 96 et 98. Ce sont des romans qui sont parus donc en France, sinon pas en Algérie. Votre souhait, vous nous l'avez dit lorsque nous avons travaillé ensemble, ce serait de les rééditer ici en Algérie. Alors, Souad, c'est deux romans noirs. Hein, l'histoire, c'est des histoires très sombres, des histoires algériennes.
Je crois qu'actuellement, il est difficile d'écrire autrement. Il est difficile d'écrire des romans gays.
Oui, alors le premier, L'année des chiens, c'est l'histoire de...
Oui, alors on retrouve en fait l'Algérie des années 90. Oui, c'est le premier roman, L'année des chiens. C'est l'histoire de deux frères jumeaux. Le plus jeune, donc qui est le préféré de sa mère, a été tué lors des événements donc, d'octobre 88. Et l'aîné, du coup, s'est senti coupable et va vivre l'errance.
Donc c'est un roman, c'est une histoire que vous avez imaginée ou alors...
En partie, bien sûr, c'est une fiction, mais bon, qui est traversée à la fois par mon histoire et puis par l'histoire de beaucoup de gens que j'ai connus. Oui. Cette trajectoire de l'exode, enfin une sorte d'exode ou de migration.
Oui. Les événements de 88, si on devait aujourd'hui vous demander que vous reste-t-il de ces événements ? D'abord un roman ?
Oui, mais je crois que c'est... Les années 80 ont été à la fois des années noires, parce que c'était des années de tremblement de terre. D'ailleurs, elles ont été entamées par un tremblement de terre en 1980. C'est comme si la nature elle-même voulait protester contre ce qui se passait ou ce qui allait se passer. Et puis, il y a eu la protestation des hommes aussi. Durant toute la décennie 80, des déflagrations régulières, Constantine, Saïda, la Casbah, et puis les grands événements d'octobre. Beaucoup de colère. Et je crois qu'il fallait s'y attendre, tout simplement, parce que je m'étais rendu compte, moi j'avais un peu plus de 20 ans à l'époque, mais je m'étais rendu compte que il était extrêmement dur d'avoir 20 ans en Algérie à cette époque-là. Et aujourd'hui aussi, je pense.
Pourtant, vous avez choisi d'être journaliste et d'écrire. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir écrit ce qu'il fallait écrire, ou alors vous avez été aussi frappé par une censure ?
Non, moi, quand je suis arrivé dans la presse, il y avait pratiquement plus de... Je suis arrivé à la fin des années 80, donc il y avait pratiquement plus de censure, enfin, si on peut considérer qu'il n'y a plus de censure, parce qu'il y a toujours des formes assez subtiles de censure. Moi, j'étais à l'aise parce que j'avais choisi de faire du reportage.
Oui.
Donc, je sillonnais un petit peu l'Algérie, puis je rencontrais des gens, j'essayais de rendre des ambiances, et puis de donner la parole aux gens.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est... Malheureusement, c'est une des formes de journalisme qui manque le plus dans la presse aujourd'hui.
80, des années 80, le journalisme, est-ce que vous pensez qu'il avait acquis certaines libertés par rapport aux années précédentes ou alors,
Oui, avec la presse indépendante, il y a quand même une tonalité, il y a une liberté. Non,
avant
de
la
temps.
Presse indépendante, les années 80, la presse indépendante est arrivée.
Ah non, les années 80, c'était toujours, muselé. Hein. Il y avait des journalistes qui étaient mis dans les tiroirs, interdits d'écriture, etc. C'était des pratiques courantes.
Oui. Mais vous travaillez dans quel.
Moi, j'ai travaillé à Algérie Actualité.
Pourtant, on avait l'impression qu'il avait une tendance, une liberté par rapport à l'autre journal, non? C'est pas le sentiment?
Il s'était creusé comme ça de petits espaces de liberté en mettant, peut-être en favorisant un peu l'expression autour de la culture et autour des problèmes de société.
Oui.
Donc, les politiques, en général, surveillent beaucoup plus le politique, c'est-à-dire les rubriques politiques, quand on parle directement politique. Mais ça veut dire aussi qu'on peut parler de politique autrement, quoi.
Oui. Le deuxième roman, c'est...
Le second roman, c'est La cité du précipice, donc, qui traite en fait de la cité d'Arl-Kef, à travers un personnage central, Boualem, surnommé Pas de chance. Alors, ce roman nous entraîne en fait dans cet enfer, dans cette cité de la honte, destinée initialement aux parrains français, donc cité située entre une carrière et un cimetière. Boualem se réveille un matin et se rend compte qu'il a uriné dans son lit. Il s'installe sous un mur de la cité. Toutes les images de son passé, ses parents, son frère, défilent en fait devant nos yeux. Alors je ne vais pas donner la fin, parce que j'espère que le lecteur aura bientôt l'occasion de lire ce roman si vrai et si fort. Il y a 5 chapitres, il est constitué de 5 chapitres. Touchia est le premier, donc peut-être en référence au Chabi, que Sadr vénère. Bon, le second, Boualem Pas de chance, donc l'auteur, le personnage principal. Un chapitre sur Zohra qui est la mère, un autre sur Hamid qui est le frère de Boualem. Et puis, pour finir, le Khlas.
Oui, alors la cité du Kef, c'est la cité de la honte, une cité dortoir où l'on vit d'une manière... vous dites que c'est la cité de la honte, pourtant il y en a plusieurs. Il y a la cité Mahidine qui est moins
Je crois qu'en dehors des bidonvilles comme celui de Gorias qui existait, Flharrach, ou comme celui qu'il y avait à Bebloued, Consolation, et quelques autres que j'avais connus à l'époque, je crois que j'ai pas vu pire que Diyarlıköy. Hein. C'est en même temps un hommage que je rends aux gens qui vivent là-bas. C'est-à-dire, je ne sais pas comment...
On s'en sort indemne.
Comment ces gens-là n'ont pas brûlé tout ce qu'il y a autour.
Oui.
Comment ils n'ont pas mis le feu dans la ville, comment ils n'ont pas encore tout brûlé, quoi. Oui. Ça, je pense que quand on est mis dans des...
Dans le Kef, elle se situe près de Bebloued,
Derrière Bebloued, juste en dessous de la carrière Jobert, sur un flanc de montagne, comme ça, et puis cette carrière qui est hideuse. Et puis en face, il y a le cimetière de Tal Qatar. Mais c'est... la condition qui est faite à des êtres humains est absolument insupportable.
Oui.
C'est en pensant à ça que j'ai imaginé quelqu'un qui vit là-bas, quelqu'un vivant là-bas avec les problèmes que l'on sait de l'Algérie des années 90.
Où il y a une promiscuité, une seule chambre pour une famille de 15-20 personnes.
Oui.
Des toilettes à l'étage,
sur le palier. Il en restait, à l'époque où j'ai été la dernière fois, il en restait presque plus parce que les jeunes avaient grandi dans cette cité. Ils étaient arrivés en âge de se marier, donc ils abattaient les cloisons des toilettes pour construire des chambres où ils vivaient.
Donc c'est la suite d'une enquête que vous avez eu envie d'écrire cette fiction ?
Pas sur le moment. Pas sur le moment, ça m'est revenu un jour, plusieurs années plus tard, ça... un petit matin d'insomnie, j'ai repensé à cette cité, je ne sais pas pourquoi, et puis donc voilà.
Mais je crois qu'ils n'ont pas tout brûlé précisément à cause du Chabi, pour un moment. Ça me rappelle une histoire qui avait été racontée par un jeune de cette cité qui disait que la police passait pendant la période, on appelait ça la période où on ramassait un peu tout le monde d'assainissement.
La campagne d'assainissement.
La campagne d'assainissement. Et puis des jeunes à 1h du matin, toujours en train d'écouter une cassette de Chabi. Et puis le policier qui leur dit « Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci » et qui lui répond « Nous sommes en train d'attendre notre tour pour aller dormir. » Alors le policier n'a pas compris. Il pensait que c'était une blague et ils ont été... Ils ont été embarqués. Donc je pense que s'ils n'ont pas tout brûlé, à un certain moment, c'est un peu à cause des délices du Chabi écoutés à 1h du matin dans ces quartiers populaires.
Said Raïsed, vous les avez approchés quand même, ces gens qui vivent dans cette cité?
Oui, j'ai été à plusieurs reprises dans cette cité, oui. J'avais fait des reportages, et puis j'avais fait mon service militaire. J'avais été engagé dans l'opération des bidonvillisations. Donc j'avais fait le recensement dans un certain nombre de bidonvilles, et en particulier dans cette cité qui aurait dû être détruite, parce que les gens auraient dû être logés ailleurs, ce qui n'a jamais été fait. Et c'était la période honteuse. Hein. C'était la période où on construisait un mur pour masquer le bidonville de la
Consolation. Elle existe toujours, cette cité du Kef. La cité du Kef.
Elle existe, elle est encore habitée. Il y a des gens qui vivent là-bas, qui grandissent là-bas, qui se marient là-bas, qui meurent là-bas.
Devant ce tas de pauvreté, vous aussi, il y a une fascination. Comment les gens peuvent-ils vivre, se marier, travailler?
Mais c'est en même temps l'image de l'Algérie. Oui. C'est en même temps l'image de l'Algérie. Moi, j'étais resté 5 ans sans rentrer au pays. Puis,
parlez dans le micro, s'il vous plaît.
Quand je suis rentré, j'ai l'impression que la ville a énormément vieilli. Des murs délabrés, c'est plus sale. Mais en même temps, il y a de la vie. Même, j'imagine, j'étais pas rentré dans la période noire des années 96-97. Je suis rentré un peu plus tard. Mais je crois qu'il y a une pulsion de vie qui est exceptionnelle. Et moi, de voir les gens comme ça à traverser anarchiquement dans la rue, les voitures qui se montaient dessus, et puis les enfants partout, paradoxalement, pour moi, c'est une image de vie qui est très, très forte. Mm-hmm. Et je crois que c'est pour ça que peut-être l'espoir que j'ai pour ce pays, c'est à ce niveau-là. Mais je me dis, c'est un peuple qui ne mérite pas ce qu'on est en train de lui faire. Et puis, peut-être qu'un jour, c'est pour ça que j'en veux aux élites. J'en veux énormément aux élites. Bon, à commencer par moi-même, bien entendu, parce que je me mets dans le lot. Nous nous sommes trempés sur beaucoup de choses.
1991, donc ça fait 9 ans d'absence. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui en Algérie?
C'est d'abord un sentiment d'étourderie. Pendant quelques jours, je pense que je vais être encore étourdi, à la fois par la lumière, le soleil, parce que je crois que j'ai souffert, enfin souffert, c'est, parfois les mots sont un petit peu pervers, ou pauvres. T'mermet, quoi. T'mermet, t'as l'immigration.
On y reviendra, justement.
Mais je crois que la chose dont j'ai le plus souffert, c'est l'absence de lumière.
Oui.
Je crois que c'est ce qui met du noir dans la tête.
Donc, vous êtes enfant de l'Harrach, enfant d'Alger, bercé par, vous avez dit, par le Chaabi. Pour parler de l'Harrach, c'est aussi, c'est pas aussi la belle cité. Hein, on est habitué à la zone, à la misère et tout ça.
Maintenant, la misère, elle est généralisée, mis à part dans certaines rues ou certains quartiers très précis d'Alger. On a un sentiment de misère partout c'est délabré, partout c'est...
Pas seulement matériel, d'ailleurs.
Il y a aussi une misère morale, j'imagine, oui, bien entendu, parce qu'elle recouvre un certain nombre de réalités sociales. Mais moi, le Harrach, j'avais pas ce sentiment de... la misère, je crois que on a dépassé un stade. Je pense que depuis le début des années 90, on est passé à un autre stade de la misère. Parce que quoi qu'on dise, je parle de ma génération, j'avais 20 ans dans les années 70, on avait de l'espoir. On avait malgré tout de l'espoir. Moi, j'ai été à l'université parce qu'il y avait... À l'époque, il était possible pour un enfant d'ouvrier d'aller à l'université. Il était possible encore de se soigner, difficilement, mais il était encore possible de se soigner. Il y avait peut-être des fuites en avant sur le plan de la gestion du pays, en particulier sur le plan économique. Il y avait peut-être un peu de volontarisme, peut-être même beaucoup, mais il y avait quand même une répartition plus ou moins équitable, même si d'autres en ont profité un peu plus. De la rente pétrolière et puis des quelques richesses dont dispose le pays. Et il y avait aussi, je me rappelle, j'étais engagé dans le volontariat, j'étais au Parti communiste clandestin à l'époque, au PAGS. Donc on avait de l'espoir, on avait des choses à faire, c'est-à-dire qu'on n'était pas désespérés. On travaillait, on vivait parfois dans des conditions difficiles,
oui.
Mais cela ne nous a pas mené à l'islamisme. Quoi.
C'est oui, oui. On va revenir à vos romans, là, donc La cité du précipice et puis
L'année des chiens,
qui est édité chez Anne Carrière. Comment ont-ils été perçus en France? D'abord, l'éditeur, comment il l'a...
Il l'a accepté, ça veut dire que ça lui a plu. C'est vrai que mon éditeur m'a demandé, surtout après le deuxième, d'essayer d'écrire des choses un peu plus légères.
Oui.
D'ailleurs, nous nous sommes séparés parce que je n'ai pas le cœur léger. Et donc, je ne peux pas écrire des choses légères. Bien sûr, je déconne, m'arrive de déconner, d'écrire des textes, notamment en arabe, en poésie populaire.
Mais qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui fait que votre cœur ne soit pas léger?
Le monde est noir. Le monde est noir. L'Algérie est sombre.
Ah, c'est votre perception.
Mais attention, quand je dis noir, ça ne veut pas dire absence de vie.
Oui.
Ça ne veut pas dire absence de vie. Ça veut dire la vie est difficile. Parfois, les perspectives sont incertaines. Mais moi, je crois qu'il y a une puissance de vie incroyable.
Donc, c'est assez paradoxal.
Oui, parce que, précisément, moi, je mets le doigt là où ça fait mal ou là où c'est noir, parce que c'est une protestation pour la vie, pour que la vie soit encore beaucoup plus forte. Il n'y a rien de morbide. Moi, je parle beaucoup de mort dans mes livres, mais ça n'a absolument rien de morbide. C'est au contraire, c'est une protestation contre le vol, contre le viol de vies multiples, de centaines de millions d'êtres humains qui sont aujourd'hui écrasés. Il y a de la colère. Enfin, voilà. Je dirais que c'est plus de la colère que de l'amertume ou de la
colère, résignation. La colère et puis une forme de nostalgie des années passées.
Au début, oui. Au début, oui. J'étais très nostalgique.
C'est une maladie, la nostalgie, vous savez.
Oui.
Il faudra s'en guérir.
J'étais très nostalgique. Bon, je m'en sors un peu mieux, parce que j'ai bu le calice jusqu'à la lie, comme on dit.
Oui.
Et donc, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il faut sortir de là. Quoi. C'est,
oui.
Sinon, on crève. Quoi.
Oui, oui. Ouais.
La nostalgie, c'est une maladie, mais c'est aussi un remède. Alors, à propos d'études à l'université, parlez-nous des études des années 70. Quelles études vous avez faites déjà?
Moi, j'ai fait sociologie à l'université.
Alors, c'était quoi l'université des années 70?
Y avait quand même des débats, il y avait des luttes syndicales, il y avait le volontariat, il y avait... on ne s'entendait pas toujours, mais c'était... disons qu'il y avait des perspectives. Il y avait encore des perspectives, c'est-à-dire qu'on n'était pas paumé. On n'était pas désespérés.
Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui une jeunesse est paumée? Est-ce que vous les avez approchés? Vous les avez...
Ah, je crois que le...
Ou alors c'est les camps d'Iraton?
Non, c'est pas les camps d'Iraton. Moi, quand je regarde rien que dans ma famille, je dois avoir à peu près en neveu direct, c'est-à-dire mes frères et sœurs. Je dois avoir quelque chose comme 60 à 70 neveux et nièces.
C'est une tribu, quoi.
Qui ont entre 15 et 30 ans. Mmh. Et puis... il y en a peut-être deux. J'ai peut-être deux ou trois neveux qui travaillent.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire, si je compte un peu les indirects, ça doit faire... C'est une tribu assez importante. Il y en a deux ou trois qui travaillent et tous, ils rêvent de partir.
Alors, par courage, Sahal.
Oui, non, moi, je voulais juste poser la question à Sedra Aïssette. C'est-à-dire, avant de vous exiler, vous étiez un fervent militant des causes justes, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la désillusion totale? Est-ce que vous croyez encore en un monde meilleur?
Bien sûr. Non, je crois que je reste ce que j'ai été, au fond de moi. Maintenant, sur la question de la manière de s'engager, là, oui, il y a un vide. Mm-hmm. Il y a un vide parce que j'ai fait une expérience assez, à la fois assez riche, mais amère, qui s'est terminée effectivement en désillusion, en un grand désenchantement. J'essaie de faire des choses en solitaire. Parce que je m'entends mieux avec moi-même qu'avec les autres. Donc, il va falloir trouver les moyens de nous entendre. Et je pense que pour trouver les moyens de nous entendre, il y a beaucoup d'écrans. Il y a les écrans de la politique, il y a les écrans du pouvoir, il y a les écrans des stratégies de pouvoir, il y a les écrans idéologiques, il y a tout ça qui sont entre nous. Et peut-être que si on arrivait à déblayer un petit peu tout ça, si on arrivait à se parler, se parler tout simplement, se dire des choses, se raconter des choses, et puis peut-être nous taire quand on n'a pas envie de parler, peut-être que ça irait un petit peu mieux. Mais je ne désespère pas.
Vous n'avez pas le sentiment d'être chez des psychanalystes ici?
Quand on parle, il y a toujours une dimension psy. Moi, j'ai horreur des psys, des psychanalystes.
Oui.
Je pense que... Parce que j'ai atterri dans une société où, pour être bien, la plupart des gens s'allongent sur le divan du psy.
Oui.
C'est une... Même si ça a l'effet, souvent, ça relève plus du placebo que de la thérapie réelle. C'est parce que c'est une société assez déshumanisée, assez inhumaine, la société occidentale, la société du marché développée, quoi. Société ultra-libérale. C'est assez inhumain. Et donc les gens, pour supporter le monde dans lequel ils vivent, ils vivent allongés sur le divan d'un psy. Et ça, c'est une image que je ne supporte pas.
Alors là, moi, je vais un peu vous brutaliser. Vous êtes parti en 1991. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment de culpabilité, le fait d'être parti, ou alors...
Plus maintenant. Au début, maintenant. Oui. Au début, oui, au début, j'entendais tel copain est mort, tel copain a été tué, tel copain a eu des problèmes, on lui a rendu visite, etc. Beaucoup de copains sont morts. Et au début, ça a été très, très dur.
Alors, vous êtes...
Très dur, parce que, de toute façon, c'était impossible de ne pas se sentir coupable.
Oui. Alors, vous êtes donc depuis 1991 en France. Vous nous avez dit que c'était un peu la descente aux enfers.
Oui.
Le fait, et c'était la course pour avoir des papiers.
On vit dans le ventre de la terre. Dès qu'on arrive à Paris, on rentre dans le métro.
Oui.
On rentre dans les couloirs du métro. C'est assez sombre. Mais c'est ça, l'univers. C'est une sorte d'univers.
Donc vous avez beaucoup galéré quand même avant de trouver une situation plus stable, c'est-à-dire avant qu'on vous donne les papiers.
Ah oui, il y a des copains qui n'en sont pas encore sortis d'ailleurs.
Oui.
Qui sont là-bas depuis 6, 7 ans, 8 ans, qui galèrent toujours.
Oui.
Oui, c'est vraiment pas le, c'est pas l'Eldorado, quoi.
Oui. Alors, vous êtes émigré et donc vous êtes parti en France et vous travaillez donc dans une commune qui se situe dans le sud de Paris, une commune aussi à forte majorité d'émigration. Donc
oui,
vous êtes de nouveau émigré dans ce pays-là et vous êtes écrivain public. Alors. Ça a une connotation un peu littéraire. Les écrivains publics assis dans un marché qui écrivaient des lettres pour les administrations. C'est un peu ça que vous faites ?
Oui, je pense que la vision quand même de l'écrivain public a un petit peu changé dans la réalité. Parce qu'avant, les gens écrivaient des lettres à leur famille, etc. Maintenant,
oui.
Bon, ils ne font plus ça parce qu'il y a le téléphone.
C'est vrai.
Ils peuvent joindre leur famille un peu plus facilement. Bon, encore qu'il m'arrive d'écrire des lettres de ce type-là.
Oui.
Mais je travaille donc dans une cité. J'ai des permanences, entre autres dans un foyer sur la Cotra, où c'est un foyer pour étrangers, donc essentiellement des Maghrébins. Je leur rédige leur courrier, je leur lis le courrier, je leur explique, je fais des traductions, jusqu'à des ordonnances du médecin, quoi. Ça peut aller jusque-là, les régimes, les choses. Mais surtout, je les aide à se retrouver un peu dans la jungle administrative, parce que quand on parle mal la langue, et d'ailleurs même quand on la parle très bien, il est parfois très très difficile de se retrouver. Vous appelez une administration, vous avez un serveur vocal, alors vous passez 10 minutes à écouter la bande, vous êtes obligé de la réécouter 3 ou 4 fois pour savoir sur quel bouton appuyer pour avoir le service que vous voulez. C'est une jungle. Je ne sais pas si c'est exprès, mais en tous les cas, dans la réalité, c'est extrêmement compliqué. Donc moi, j'aide ces gens-là à régler leurs problèmes administratifs.
Monsieur Aïssat est un peu sur les traces de Ketbiassine, parce que Ketbiassine a fait ça, pas de la même façon, il a eu à secourir en même temps les émigrés. À l'époque, c'était essentiellement des ouvriers.
Oui, aujourd'hui, est-ce que ça change un petit peu ? Dans les meublés, dans les hôtels meublés, dans les cafés. Oui,
il raconte une anecdote assez sympathique d'un ouvrier justement avec lequel il était, qui lui écrivait ses lettres et tout ça, et puis qui se repérait dans Paris, dans le ventre de Paris, par rapport à une publicité Kadom à l'époque. Ouais. Et quand la publicité avait disparu de cet emplacement, l'ouvrier ne partait plus donc à son usine. Et Kadbiassine avait compris ça parce que précisément, il était très proche de cet ouvrier qui l'aurait réveillé à 4 heures du matin pour partir. Donc l'histoire se répète.
Et à propos de Kadbiassine, moi, il y a une petite nouvelle là que Sadraïset a écrite aussi, enfin une postface où il parle de la trajectoire du chat.
Oui.
Alors, c'est une référence également à Kadbiassine ?
Oui, oui, c'est une référence à un poème de. Un poème que.
Dans le jardin du Mufti.
Voilà. Oui. Parce que les gens parlent du chat, et moi, le chat, ça ne veut absolument rien dire. Comme on dit, on peut appeler un chat, mais ça ne change absolument rien au fait que ce soit un chat. Ce qui est intéressant, c'est justement sa trajectoire. Et je crois que bon, c'est un peu l'esprit de Kadbiassine, bon, que j'aime beaucoup. D'avoir pensé à des choses comme ça. Quoi.
Pardon, d'ailleurs, vous préparez un ouvrage sur Kadbiassine.
Oui, avec le matin.
Alors, on revient dans la commune de Paris. Vous animez également des ateliers d'écriture.
C'est l'autre volet de mon travail d'écrivain public. Parce que faire des ateliers d'écriture avec des enfants ou des adultes, je considère que c'est la même chose que de faire l'écrivain public. Hein.
Ah bon ?
Oui, c'est à peu près le.
Créatif parce que là, il y a une trame et vous invitez les enfants à écrire une histoire.
Oui, mais je veux dire écrivain public parce que bon, je suis un écrivain au sens. Bon, pour moi, le mot écrivain est déjà porteur de beaucoup de malentendus. Bon, on pourra s'expliquer peut-être un jour sur ça. Mais être écrivain public, c'est être à la disposition du public. Et là, je suis à la disposition des enfants, je suis à la disposition des adultes. Donc à la fois pour des questions administratives, parce que je connais les procédures, enfin, j'ai appris à les connaître, mais aussi pour écrire des histoires, pour rêver, pour... imaginer des choses et les mettre sous forme d'histoire.
Donc en ce moment, c'est très à la mode, les banlieues difficiles à Paris. Vous êtes dans une banlieue difficile ?
Un peu, qui est quand même sous contrat de ville, c'est-à-dire qui est régi par un système de politique de la ville, où il y a une partie de la ville en zone classée, zone urbaine sensible. Il y a c'est une banlieue, mais pas des plus dures. Quoi.
Pas des plus dures. Justement, on va parler de cette jeunesse d'immigrés. Comment, on a l'impression qu'elle est contestatrice, elle chante son rap, elle revendique, elle refuse de vivre comme ont vécu leurs aînés, à savoir dans le silence.
Oui.
Et il y a quand même un taux d'analphabétisme, il y a quand même une situation un peu grave.
Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on appelle dans le phénomène des cités, c'est que progressivement, il y a eu une concentration de la misère dans les cités, c'est-à-dire les couches les plus démunies, les plus défavorisées se sont retrouvées dans l'habitat qu'on appelle HLM, c'est-à-dire là où c'est le moins cher, là où...
Oui.
Et puis, parmi ces populations, bien entendu, il y a les populations immigrées qui sont les pauvres parmi les pauvres.
Oui. Hein,
donc il y a une concentration de populations étrangères, une forte densité de concentration de populations étrangères dans les cités, une absence de mixité sociale.
Oui. Donc, qu'est-ce que vous appelez par mixité sociale ?
C'est-à-dire
par rapport aux Français
dans les années, jusque dans les début des années 70, enfin jusque dans les années 70, dans la cité où je travaille, bon, il y avait des couches moyennes. Il y avait des ouvriers, il y avait des couches moyennes, il y avait différentes catégories sociales. Là, maintenant, il ne reste que les pauvres. Hein, beaucoup de RMistes, beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens qui émargent aux services sociaux, etc. Il y a des épiceries sociales, c'est-à-dire qui viennent en aide aux... qui donnent des produits alimentaires, qui distribuent des produits alimentaires, pour dire que bon, il y a des niveaux de misère assez... assez important, quoi.
Alors, Sadraïset, donc, vous animez, comme Malika l'a dit, des ateliers d'écriture pour enfants, notamment des collégiens. il doit y avoir des beurs, ce qu'on appelle les beurs, les Français. Comment que ça
ils
se passe?
Ils refusent qu'on les appelle les beurs.
Oui, oui, ils préfèrent le terme rebeu.
Comment?
Ils préfèrent le terme rebeu.
Rebeu,
c'est le verlan de l'arabe. Oui. Et beurre, c'est le verlan du rebeu. C'est un verlan de verlan.
Oui.
Et oui, c'est...
Alors, vous avez un contact hebdomadaire avec ces collégiens, enfin, selon les classes, etc. Mm-hmm. Et quelles sont, est-ce qu'il y a des préoccupations différentes selon qu'ils soient... Comment, rebeu?
je sais qu'ils veulent plus penser.
Ou c'est les mêmes préoccupations en fait, qui animent cette jeunesse.
En gros, c'est les mêmes choses. Ouais. Ils ont à peu près un même langage, c'est-à-dire même les petits, comment les appelle les petits blancs, les petits batbous, ils disent voilà aussi. Oui.
Alors là, chaque année, justement, il y a un livre qui est édité, des meilleures nouvelles. Écrit par les collégiens. J'imagine que ça doit être une... Enfin, moi, je l'ai lu, c'est formidable, ces petites nouvelles, c'est merveilleux. J'imagine le bonheur de ces enfants quand ils voient un peu leurs nouvelles publiées. Et comment se fait la sélection?
Non, tout le travail qui est fait est publié. Tout le travail qui est fait est publié. Et donc, oui, c'est une façon de valoriser des jeunes qui sont parfois en échec scolaire.
Oui.
Et puis, venir dans un atelier d'écriture, c'est une autre approche de l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas scolaire, même si ça se passe dans le cadre scolaire. C'est pas scolaire parce que je refuse que ce soit noté. Et il n'y a pas de jugement sur le travail que font les enfants. Et puis, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que on n'est jamais hors sujet.
Oui.
On n'est jamais hors sujet, c'est-à-dire que un texte... écrit un enfant qui est intéressant, même s'il n'est pas dans la trame de l'histoire, on peut toujours le rattraper. Une fois, par exemple, j'ai un petit Turc qui avait des difficultés en français, qui a une grande difficulté en français, a écrit un texte complètement délirant, qui n'avait rien à voir avec l'histoire qu'on était en train de d'écrire.
Oui.
Mais le texte était tellement, tellement bien, était tellement vivant, donc on a décidé de l'intégrer sous forme de cauchemar. C'est quelqu'un qui fait un cauchemar. Donc, bon, comme le texte n'avait rien à voir avec l'histoire, donc on a trouvé une astuce littéraire, enfin, un procédé, quoi.
Et vous, c'est sur le côté technique que vous intervenez?
Essentiellement.
Oui.
Mais il y a ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce travail, c'est qu'il y a... on discute beaucoup, on parle beaucoup. Et donc, les enfants me parlent, et puis moi aussi, je peux leur parler. C'est-à-dire qu'on est... Il y a un effet miroir, et puis bon, il m'oblige à parfois aller chercher des choses quand même assez loin, c'est-à-dire au niveau de la vérité.
Alors, Sadek Aïssat, quelles sont leurs préoccupations aujourd'hui à cette jeunesse de l'immigration?
Ben, les jeunes, ils veulent vivre.
Ils veulent vivre. Justement, ils connaissent une situation aujourd'hui dans ces banlieues où la majorité de leurs parents sont chômeurs.
Oui, beaucoup.
La télé qui est là avec toutes ses tentations, et il y a la vie dans les banlieues. Alors comment...
Voilà, en France, par exemple, on est citoyen, bien entendu. On peut être citoyen, parce que tout le monde ne l'est pas. Et puis, on est surtout un consommateur.
Ben oui.
Alors, on est surtout un consommateur, c'est-à-dire qu'on est entouré par le marché. Alors, dans la maison, dans le métro, dans la rue, quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, quand on lit les journaux, etc. On est d'abord un consommateur. Et on a donc des populations qui sont en dessous du seuil de la pauvreté, donc, qui sont, dont les parents sont au SACEDIC, ils sont inscrits au RMI,
il y a le système de drogue, l'école n'est plus un repère.
Oui, donc il y a...
Il n'y a plus de repères.
Il y a effectivement cette détérioration de repères anciens ou qui ne sont plus valables.
Oui.
Et puis, bon, voilà. Donc des jeunes se retrouvent dans cette jungle et ils doivent survivre. Bon, alors il y a des procédés, effectivement, dans beaucoup de cités, il y a la débrouille, hein, il y a un système de trabendo. Un système de trabendo, alors la drogue, effectivement, mais aussi tout le reste, le linge.
Et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle représente pour eux, pour ceux qui ne sont jamais venus?
C'est un pays mythique, c'est le mythe, c'est vraiment le mythe. Mm-hmm. Hein, ils ont une image de l'Algérie. Ils ont l'image qu'ils ont quand ils viennent en vacances.
Mm-hmm. Et pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est...
C'est rare quand même.
Ah bon?
Oui, c'est rare. J'en ai très très peu rencontré qui ne sont jamais venus. En général, ils viennent. Peut-être pas régulièrement, pas tous les ans, mais ils viennent de temps en temps.
Et aussi, un petit peu, leur souhait serait de rentrer dans le pays ou alors,
Pour beaucoup, ils en rêvent encore.
Ouais. Ah oui.
Pour beaucoup, ils rêvent encore de rentrer au pays. Ouais.
Est-ce qu'il y a cette prise de conscience de leurs aînés qui ont connu l'émigration, le dur labeur? Est-ce qu'il y a une prise de conscience politique aujourd'hui?
Ça dépend dans certaines catégories, mais en général, ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a une méconnaissance de l'histoire assez inquiétante.
Oui.
Alors, l'histoire de leurs propres parents n'est pas connue. Beaucoup de jeunes qui ont près de la trentaine n'ont entendu parler des événements d'octobre 61 à Paris que récemment, à l'occasion du procès Papon. C'est quand même assez ahurissant.
Oui.
Parce que la guerre d'Algérie reste encore un tabou.
Oui, bien sûr.
Reste encore un tabou. En France, le 17 octobre 61, on n'en a pratiquement jamais parlé. Si,
depuis que la France a décidé d'en parler, depuis que...
C'est en 91.
Enaudi a fait
tout son... C'est en 91 qu'on en a parlé la première fois.
Il y a eu le procès Papon.
Et puis effectivement un film mm-hmm. à la télé.
Oui. Mm-hmm. Donc une jeunesse...
Une jeunesse un peu déboussolée, évidemment, à la fois sur le plan social.
Et en même temps qui fait peur, parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs se demandent comment faudra-t-il s'y prendre. Elle a été laissée pour compte, quand on sait que beaucoup de banlieues, il y a ce déséquilibre, les banlieues riches et des banlieues pauvres. Aujourd'hui, on constate en l'an 2000, il y a eu politiquement un déséquilibre, bien que la gauche a gardé 14 ans de pouvoir. Oui, cette banlieue qui est devenue tout à fait pauvre, elle n'est pas devenue du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on a l'impression que toutes ces banlieues font peur.
Bien sûr, parce que c'est à l'image d'un pays ou d'une région, dans la région parisienne, c'est un peu à l'image de ce qui se passe dans le monde. Hein, vous avez des îlots de prospérité qui se réduisent parce qu'il y a une concentration de richesses de plus en plus grande. Entre les mains d'un nombre d'individus de plus en plus réduit.
Oui.
Et on aura bientôt cette vision planétaire d'un îlot de prospérité entouré d'un océan de misère.
Oui.
Et ce sera les barbares, quoi.
Oui.
Au-delà des murs de la cité, ce sera les barbares, ce sera les territoires barbares. Mmh. C'est un peu l'Afrique par rapport à l'Europe aujourd'hui. C'est les barbares, l'immigration, les gens qui vont venir, etc. Je crois qu'on va arriver à quelque chose de cet ordre-là. Et c'est un petit peu cette image qui est celle des banlieues. Bon, on a bouté, bien avant l'immigration, on a bouté les ouvriers parisiens hors de Paris, après la Commune. En 1870, on a commencé à faire sortir
les mettre dans des ghettos
à les repousser de plus en plus en dehors de Paris des centres villes mm-hmm. et c'est une politique qui se poursuit
Cette Kaiser, responsable de la jeunesse dans les années 80 en Algérie aujourd'hui toujours au cœur de la jeunesse, il a peur de vieillir, Cette Kaiser?
Parfois il y a autant la question de la mort par exemple, elle est réglée,
c'est-à-dire
c'est pas une angoisse, autant parfois la vieillesse peut être une angoisse parce que elle, dans la mesure où elle peut empêcher de faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire où on risque... C'est plutôt la peur de ne pas avoir l'énergie suffisante pour aller au bout. Au bout du chemin, quoi.
Pourtant, vous avez encore le temps, là. Vous n'êtes pas...
Oui, je pense. Ouais.
c'est un talisman, plutôt, pour ne pas... La jeunesse.
Mm-hmm. C'est-à-dire que là, on a remarqué, enfin, ces derniers temps, avec... bien sûr, il y a eu l'exil, etc. Mais on a remarqué une chose formidable, c'est toute cette explosion littéraire qui s'est faite... en France, au niveau de la musique également. Bon, la musique peut-être plus par les rebeux, mais la littérature par tous ces exilés, des cinéastes qui se mettent à écrire, des journalistes, vous-même. Il a fallu que vous partiez pour que vous écriviez déjà 3 livres, un 4e en voie, etc. Alors comment peut-on expliquer ça?
Ouais, je pense que c'est normal. C'est normal avec tout ce qui se passe dans le pays, avec tout ce que l'Algérie a vécu ces 20 dernières années. Je crois qu'il y a une commotion, aussi forte. Le choc est si brutal qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une explosion comme ça de créativité, que les gens cherchent des choses. Je pense que ça correspond à des histoires, hein, des histoires humaines. C'est des moments de forte création.
Exorciser la douleur.
Entre autres. Je pense que on vit de façon si intense ce qui se passe que ça, effectivement, il faut que ça rejaillisse en quelque chose d'autre. Oui, il y a effectivement au niveau de la peinture, au niveau de la littérature, au niveau de la musique, mais pas uniquement les beurs. Hein,
oui.
Beaucoup de musiciens algériens que j'ai rencontrés en France qui sont en train de faire des choses formidables.
C'est-à-dire que lorsqu'on s'en éloigne physiquement, on s'en rapproche avec le cœur.
Peut-être. Il y a peut-être le manque. Il y a peut-être le manque de certaines choses. On se sent peut-être effectivement un peu mutilé d'une partie physique qui peut être de l'ordre de la lumière, en tous les cas pour moi. Ça a été l'absence de la lumière. Mais on est mis dans des situations où il nous faut survivre. Parce que peut-être, c'est-à-dire quand on est dans une société étrangère, la confrontation qu'on peut avoir à la société n'est plus la même. Ici, on a un type de confrontation au nôtre. C'est les nôtres, c'est-à-dire on est avec nous-mêmes. Et quand on est là-bas, le type de confrontation, ça change totalement. Ça change totalement, donc on est obligé de s'inventer des devenirs. Sinon, on ne devient rien du tout, sinon on pourrit sur pied, on meurt. On devient légume et puis on pourrit, on est jeté à la poubelle.
Depuis 1991, il y a eu une autre communauté qui s'est installée justement en France. Et comme le disait Sohad, certains ont pu écrire, d'autres faire du théâtre, du cinéma. Comment ça se passe? Est-ce que y a une solidarité ou alors
Très peu, malheureusement. Très peu de solidarité. Bien sûr, il y a eu dans la société civile française des organisations, des personnalités aussi qui ont pris en charge, qui ont une partie, qui ont essayé d'aider, de monter des réseaux de soutien ou des associations, etc., pour aider des Algériens qui étaient en détresse, hein, pour la plupart, dans des situations très, très difficiles. Mais ça reste très difficile. C'est-à-dire qu'il y a une création, il y a une créativité, il y a des choses qui se sont faites, qui ont été favorisées aussi par le fait que l'Algérie était dans l'actualité. Il y a eu aussi cet aspect. Bon, malheureusement, ça n'a pas toujours été très, très sain. Il y a eu des choses qui ne sont pas très, très saines. Bon, mais ce n'est pas grave. Mm-hmm. Ce n'est pas grave. De toutes les façons, il y a un mouvement, il y a des choses qui se font. Et puis, bon, la vie, elle est là pour justement que les choses qui sont porteuses d'un véritable devenir, c'est-à-dire qui ont quelque chose de puissant, puissent sortir. Ça me rappelle une anecdote de, je crois que c'était Giacometti avec, comment il s'appelle cet écrivain, avec Jean Genet. Jean Genet a fait un livre sur Giacometti, il lui a rendu visite dans son atelier, bon, ils ont beaucoup parlé, et puis un jour, Giacometti voulait offrir une petite sculpture, je crois, à Jean Genet, et puis Jean Genet a touché sous un petit...
Mais parlez dans le micro, là.
sous un petit, comment on appelle ça, sous une sorte de tabouret, comme ça, par terre, il y avait caché, il y avait une petite statuette. Il l'a touché du pied, et il l'a vu, il lui a dit, c'est celle-là que je veux. Et Giacometti lui a dit, je me disais bien que celle-là, je l'ai mise ici, et puis je me suis bien dit qu'elle finira par sortir. Si, mmh. si elle a suffisamment d'énergie en elle, elle finira par sortir.
Alors, il y a une page d'histoire qui est tournée aujourd'hui. On parle d'un retour amical, bien sûr, de tous ces pieds noirs, de certains chanteurs. Comment c'est perçu
Moi, je pense qu'on ne peut pas priver quelqu'un de son pays. Mmh. Je pense qu'on ne peut pas priver quelqu'un.
On a l'impression qu'il y a une forme de réconciliation dans l'air.
Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, je vois ça de façon différente. Bon, l'affaire Enrico Macias, on en a fait une histoire politique et ça s'est fini.
Non, je parle des pieds noirs qui souhaiteraient venir.
Oui, moi, je pense qu'il faut traiter ça d'un point de vue humain, tout simplement. Mm-hmm. Pour moi, les pieds noirs, bon, j'en ai connu quelques-uns quand j'étais môme. Bon, ils étaient là, ils sont partis, c'est la France. Et c'est en France que j'ai un peu approché cette réalité parce que j'ai trouvé des gens plus déchirés que moi parfois, oui. par rapport à l'Algérie. Et j'ai été obligé d'admettre que... j'ai pris conscience que l'Algérie était leur pays. Mm-hmm. Que l'Algérie était leur pays comme aujourd'hui les petits rebeux qui naissent en France, ils ont des droits sur la France. Ils ont des droits. C'est-à-dire quand... Ils ont le droit de vivre là-bas, même s'ils partent, ils ont le droit de retourner là-bas quand ils le veulent. C'est leur pays parce que ils ont ouvert les yeux là-bas. Il y a un univers qui leur appartient. Il y a quelque chose. Et je pense que pour les pieds noirs, il y a des petites choses qui leur appartiennent dans ce pays. L'air, le soleil, la lumière, la mer. Ça aussi, ils y ont droit, il faut leur rendre cette justice.
Vous n'êtes pas complètement donc défaitiste, vous y croyez à certaines choses.
Je crois à plein de choses. Je ne suis pas du tout défaitiste. Non,
discute depuis près d'une heure et puis on voit qu'il y a de la lumière quand même au bout du tunnel.
C'est pas du tout du défaitisme. C'est peut-être une colère trop grande parce que...
Quand on aime qu'on revendique.
Parce que précisément, ouais. J'aime trop la vie.
Alors, vous ne refusez pas le statut d'émigré. Vous dites oui, je suis un immigré.
Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Je suis un immigré avant
toute
chose.
De l'an 2000.
Oui. Je suis, on m'a posé la question si j'étais un exilé. J'ai dit que j'étais d'abord un immigré.
Mais quelle est la différence entre un exilé et un émigré? Un émigré, c'est la possibilité de revenir, peut, quand de rentrer quand on veut. Et un
on
exilé...
peut être exilé sans être immigré. On peut être exilé sans être immigré. Quand on est immigré, c'est-à-dire que l'immigration algérienne en France, elle a une histoire assez particulière.
Oui.
Des années 40, 50,
avant,
60.
Avant, même avant.
Oui. Mm-hmm. Mais disons les grosses vagues. Hein, c'est à partir des années 40. 46 en particulier, quand il y a eu la liberté de circulation, enfin, entre guillemets.
Mm-hmm. Puis toute la partie de l'immigration qui a presque reconstruit la France la Deuxième Guerre mondiale.
Bien
donc, on peut revendiquer ça quand même.
Bien sûr. Mm.
Ils étaient encore sous-payés.
Oui, mais c'est précisément le fonctionnement de l'immigration, du système de l'immigration. C'est de prendre des hommes. Et à l'époque, c'était des hommes seuls, mm-hmm. des célibataires, même qui laissaient leur famille au bled. Et on les prenait, on les mettait dans des lieux de vie, enfin, si on peut appeler ça des lieux mm-hmm. de vie. En fait, ils ne vivaient pas. Les ouvriers français disent... C'est une expression très belle. C'est un mot très beau, un mot d'argot que je trouve très, très près de la vérité. Pour dire aller au travail, ils disent on va au chagrin.
Oui.
Être au chagrin, c'est être au travail. Mmh. Alors, et donc, pour les immigrés, ça, il n'y a jamais eu de vie. Il n'y a eu que du chagrin.
Et du chagrin.
Voilà.
Est-ce que cette génération aujourd'hui refuse? On la comprend aussi.
Les jeunes,
oui.
Mais bien sûr.
Alors, et, vous voyez, il nous reste plus que 8 minutes. Ensemble, c'est-à-dire Aïssette, on a parlé de votre littérature, de vos ouvrages, en espérant qu'elles seront éditées en Algérie, la cité du précipice, et puis l'année des chiens.
Oui, c'est mon souhait, parce que c'est très frustrant de ne
oui,
pas être
oui, justement, de votre travail dans le milieu de l'immigration, donc... Et puis de votre vie entre les deux rives. Je sais que vous chantez, mais dans des moments très intimes, vous chantez le Chaabi. On aurait tellement souhaité que vous nous chantiez.
Ce sera pour la prochaine fois. J'apporterai mon mandole.
Oui, parce qu'il faut le mandole pour le Chaabi. Et puis quand il nous arrive d'interviewer des jeunes chanteurs, ils vous disent... Chaabi Berberni ou Chaabi Arbani. Qu'est-ce que vous diriez à propos de ce Chaabi?
C'est mon premier choc littéraire, d'abord, la poésie. Hein, toute la poésie orale maghrébine, c'est-à-dire du XVIe jusqu'au XXe siècle. C'est une... Je pense qu'elle est porteuse de notre univers. Je oui. pense qu'elle est porteuse de notre univers. Bon, l'Anqa, il a pas été le seul, mais disons que c'est celui qui a porté le plus, hein, qui a porté à son summum cet art qui est la musique, mm-hmm. qui est le Sha'bi. Et bon, je pense qu'il n'est pas tout à fait fortuit qu'il s'appelle l'Anqa, hein, le phénix.
Oui. Oui, oui.
Et pour moi, c'est parce qu'il est porteur de quelque chose, et ça aussi, ça me révolte beaucoup, le oui. destin qui lui a été fait.
Oui.
Ça met très, très en colère.
Oui. Mais ça il reste très... quand même oui, le phénix.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, reste. Parce qu'il est vivant, il est oui. vivant chez le peuple.
Oui, 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 il reste.
Il est vivant chez le peuple.
Même si les pouvoirs n'ont pas oui. l'ont malmené, mais oui. il reste quand même.
Ça veut dire qu'on a mal à nos pouvoirs. Quoi.
Oui, oui. Et pourtant, la chanson de... comme la Dahma al-Harachi est pleine de morale, pleine de...
C'est assez particulier.
Vous, enfant Dahman, de l'Harach...
Dahman, il a un univers assez particulier. C'est oui. quelqu'un qui était
Et cet engouement, ce retour pardon, à son succès, que des jeunes chantent, c'est un phénomène quand même.
Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas été vivant pour oui. en profiter.
Oui, sur l'émigration, il a beaucoup chanté sur l'émigration.
Oui, parce que c'est bien qu'un Rachid Taha fasse d'une chanson de Dahma al-Harachi un succès international comme oui. ça, qui est traduite dans plusieurs langues. Bon, ça veut dire qu'il y a des choses très très fortes dans l'Algérie. Oui. Il y a des choses très très fortes qui sont en train de se faire. J'écoutais des musiciens de jazz mélanger des musiques de l'Anqa avec leur oui. travail ou des musiciens de rock. Il y a des choses assez fabuleuses qui sont en train
oui,
de se
Oui, on a vu Sting avec le chanteur.
Oui, sur un autre registre.
Ça ne veut pas dire aussi que la condition de l'émigré est toujours la même, quelles que soient les...
Quelques modifications, c'est ça?
Oui, à quelques modifications près, mais c'est parce que finalement la chanson de Dahman, elle inscrit le retour comme une perspective toujours présente, toujours...
Oui, moi je pense qu'il y a très peu d'immigrés qui vont revenir.
Oui, bon, mais dans le texte, dans le vécu, les migrants, même ceux qui sont persuadés qu'ils ne reviennent pas, c'est inscrit comme ça.
La notion de retour, oui, de façon plus générale, oui. On revient toujours, oui, bien sûr.
Voilà, vous nous avez dit, même ceux qui ne connaissent pas l'Algérie inscrivent ça. Donc,
mais on a compris que vous étiez un universel, que pour vous, la France, puisque vous y êtes, n'est qu'une halte, que vous nous avez dit que... Vous irez dans un pays un jour pour vous y installer.
Oui, j'aimerais aller ailleurs.
Ouais. Donc, c'est une apatrie, c'est quelque chose où on y est, où on est heureux et où on fait des choses, quel que soit le lieu. Vous n'irez pas quand même chez les Esquimaux, je ne crois pas. Vous reviendrez en Afrique, c'est ce que vous nous avez dit.
En Afrique ou chez les Indiens d'Amérique.
Ah, quand même, les Indiens d'Amérique. Mmh. Oui, mais c'est
pas en Inde.
Non,
les Indiens d'Amérique.
Mais ce sont toujours
les arts marqués. Parce qu'il nous a berberné, moi je me chabais beaucoup, mais avec aussi, est-ce qu'il pratique toujours les arts marqués?
En tout cas, ce n'est pas les Indiens qui sont dans votre tête de la littérature. Hein. Les Indiens aujourd'hui ont changé. Hein.
Oui, bien sûr, les Indiens, ça aussi c'est un autre motif de révolte. Ça aussi, c'est un autre motif.
En tout cas, merci d'avoir...
Je vous signale d'ailleurs qu'il y a une littérature indienne qui date, enfin, elle est assez récente, des années 70. Ce sont des Indiens qui ont écrit sur leur propre
histoire.
Oui.
En tout cas, merci de vous avoir prêté à notre jeu. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère que nous n'avons pas été trop indiscrets.
Avec plaisir. Non, j'ai trop parlé, non?
Non, je crois que... Merci, Sadr
Aïssat.
Et puis, que Dieu vous garde.
Un de ces jours.
للأغصان نرفرف واليوم صارت طايحة أشكون علي يا عطف أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمه